Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nous recevons aujourd'hui un homme qui me fait rêver depuis longtemps. Il est français, mais il a grandi en Angleterre, ce qui fait qu'il parle couramment notre langue, mais avec un accent anglais, ce qui lui confère un charme et un mystère certain auprès des Français. Moi qui aime tant l'Angleterre, mais qui n'y ai malheureusement pas grandi, quand je parle anglais, c'est avec ce fond de Maurice Chevalier, matinée d'Éric Cantona, qui certes attendrit le cœur des Anglaises, mais me vaut moqueries et railleries de ce côté-ci de la Manche, pour ne pas dire de ce côté-ci de la table, et là je parle de Madame Roux, qui fait rien qu'à se moquer quand je prononce des mots anglais. Tiens, par exemple, si je dis « stranglers », bah tout le monde comprend que je suis en train d'évoquer ce combo mythique du rock briton dont on fête le 45e anniversaire. Alors que si je dis « stranglers » à l'anglaise, ou tout du moins selon l'idée que je m'en fais, on me demande aussitôt si je souffre de reflux gastrique. Bref, Jean-Jacques Burnel, si devant co-leader des légendaires stranglers, me fait rêver depuis un bon moment déjà. Et comme ça fait un bon moment que nous nous sommes vus, je vais mettre mon rêve entre parenthèses pour converser avec lui de musique, de moto, de karaté, et bien sûr de la England. Jean-Jacques Burnel est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Jean-Jacques Burnel.
Bonjour Monsieur Antoine de Caunes.
Long time no see.
Yes, indeed.
How are you, mate?
I'm fine, mate. Et toi, pote?
Moi, ça va très bien. À mes côtés, Charlene Redhead. Hello, Charlene.
Encore ce souci de reflux gastrique, oui, de toujours, toute évidence. Oui, toujours, toujours. Bonjour, Antoine.
Bonjour, Charlene.
Redhead.
Non, Roux.
Elle s'appelle Roux.
Ah, d'accord.
Redhead, d'accord. Oui, c'est une plaisanterie entre nous. Au menu également de Pop, Pop, Pop de Crécy. Pas le DJ. Dans la famille de Crécy, je voudrais le frère Nicolas qui viendra tout à l'heure nous présenter sa BD Visa Transit. Mais avant ça, mon cher Jean-Jacques Burnel, ici il existe une question préliminaire, une question qui peut vous faire encore plus mal à vous anglais que du rock français, une question encore plus violente pour nous français que du vin anglais, et cette question c'est... Jean-Jacques Burnel, pour vous c'est quoi la pop culture? Alors attendez, parce que pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses. Jean-Jacquesque, burnelisé et même stranglerative, et parmi mes préférés il y a celle du champion olympique de boxe Tony Yoka. Vous qui aimez les sports de combat, écoutez.
Quand j'entends le mot pop, à chaque fois, ça me fait penser à cette période assez folle des années, je sais pas, 70, 80, où t'avais vraiment des big stars. Même si aujourd'hui, t'as des stars de cinéma, t'as des stars de musique, mais je trouve que c'est pas la même ferveur, en tout cas de la part des fans qui étaient à cette époque-là. Enfin, c'était juste huge, tu vois. C'était un truc. Et quand j'entends pop, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à cette période-là. C'est ce genre de stars-là, les rockstars, Prince, Michael Jackson, etc.
Bien. Et pour vous, Jean-Jacques Burnel, ça vous fait penser à quoi?
Il a quel poids, ce monsieur?
C'est un poids lourd.
Je suis d'accord avec lui. Complètement. Il a tiré tous les mots de ma bouche.
Donc vous n'avez rien à rajouter à ça?
Pas du tout.
Non. Ni à contester, encore moins à contester.
Encore moins à contester.
Non, c'est un très très grand boxeur, Tony Yoka.
Ah
oui. Il va d'ailleurs se produire début décembre à Paris. Je crois qu'il le rencontre le 7 décembre. Si vous êtes dans le coin, je vous y invite.
Ah, volontaire.
Je vous emmène avec moi. Volontairement. Bien, alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, James Bond, c'est un morceau d'Iggy Pop qui vient de sortir sur son nouvel album.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. With you know what?
girl, she'll save the day. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Let her be your James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby.
Iggy, James Bond, cet extrait de l'album Free, car Iggy est free, et il a tout compris. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Oui, alors ça c'est Biggie Pop, hein, le perroquet d'Iggy. Nous sommes aujourd'hui avec JJ. S'agit-il de JJ Abrams, de JJ Kell, de JJ Burnell ou de JJ Bourdin? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, JJ, c'est votre portrait, mais... Et il est signé Charline Redhead, Redhead, Redhead.
Ça marche moins bien en anglais. Hein. Ouais. Aujourd'hui, un invité drôlement difficile à classer. Pas formatable, donc pas formaté. En quelque sorte, un invité, oui, mais... Et ça, ça nous plaît. Par exemple, notre invité est né à Londres, mais il parle français, puisqu'il l'est à moitié. Il voit le jour, mais dans l'hôpital où Jimi Hendrix a été déclaré mort. Alors certes, pas la même année. Oui, il a fait sa scolarité en Angleterre à l'école royale, mais... Mais il détient le record de coups de canne. Oui, il a besoin de respect, mais pour ce faire, il confesse avoir dû casser quelques nez. Oui, il a composé ceci. Mais il a aussi composé cela. En d'autres termes, oui, un esprit punk, mais oui, aussi au clavecin. Alors oui, avec Golden Brown, il a connu un immense succès, mais... Il n'en aurait aucun souvenir. C'est en tout cas ce qu'il dit. Apparemment, la période était un peu embrumée. Oui, il vient de l'Angleterre et du Calvados, mais il a aussi composé... Ce qui prouve qu'il ne travaille pour aucun office du tourisme, sinon il serait accusé de promo erronée. Oui, il est un des Stranglers, mais il est toujours en liberté. Oui, il s'appelle Jean-Jacques, prononcé comme ceci, mais ce rapide portrait me prouve qu'il est quand même bien anglais.
Non, ce n'est donc pas JJ Kell.
Non.
Mais ils sont tous morts, ces autres.
Sauf vous, Jean-Jacques.
Feu, pardon.
Sauf vous.
Oui, je ne suis pas encore feu.
Non, vous êtes bien vivant, vous êtes bien dans le studio de Pop Pop Pop, je ne rêve pas.
Absolument.
Vous êtes en face de moi.
Oui. Et bon. Je ricane aussi.
Alors, Jean-Jacques Burnell, que lisez-vous, que regardez-vous, qu'écoutez-vous? Les Français veulent savoir. Passons tout de suite à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une série et une musique. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Charline, savez-vous quel est le point commun entre Yuval Noah Harari et les Stranglers?
Non.
Les deux ont d'abord été refusés par les maisons d'édition ou de disques. 3 fois pour Yuval Noah Harari, 24 pour les Stranglers. Étonnant, non?
Effectivement, Antoine, étonnamment. Donc, aussi, ça me donne... Ouais. Toujours. Étonnamment, ça ne donne aucune indication sur ce que raconte le livre. Et en l'occurrence, le livre raconte ce qu'en dit le sous-titre, soit une brève histoire de l'humanité. Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins 6 espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu, nous. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète? Voici l'une des questions à laquelle le livre s'efforce de répondre.
Jean-Jacques, auriez-vous l'amabilité d'en lire quelques lignes avec ce délicieux accent anglais?
Êtes-vous prêt?
Ouais, nous sommes prêts.
Ok. Il y a un subjonctif dans la première phrase, donc allons-y. Qu'on le veuille ou non, nous sommes membres d'une grande famille particulièrement tapageuse, celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés. Il y a 6 millions d'années, une même femelle eut 2 filles. L'une qui est l'ancêtre de tous les chimpanzés. L'autre qui est notre grand-mère.
Mmh. Regardez pas comme ça, Jean-Jacques. Alors, extrait de Homo Sapiens, lu par Jean-Jacques Burnell. C'est un livre qui est un succès planétaire,
ouais.
Qui vous a, vous aussi, fait foudre.
Oui, mais le problème, c'est qu'il faut le relire plusieurs fois, parce qu'on ne peut pas retenir tous les faits, toutes les infos. Mm-hmm. Une qui m'a vraiment touché, c'est celle où il dit, après, on peut contrôler jusqu'à quoi? Est-ce que c'est 150 ou 250 personnes? Après ça, il faut inventer des mythes et des mensonges. Mm-hmm. Et pour moi, ça c'est la base de la religion et des nations-États.
Très bien. Donc c'est un livre que vous...
Et des soi-disant races.
Ouais. C'est un livre que vous conseillez absolument à tous ceux qui nous écoutent, qui ne l'ont pas encore lu
Absolument, oui. Ouais. Mais il faut le faire en étapes. Hein.
Faut le faire par étapes. D'accord. Parce qu'en étapes, c'est le Tour de France, en fait.
Oui, voilà. Et c'est dur.
Oui, c'est, surtout, dire à vélo, c'est difficile.
Quand on n'est pas dopé.
Non, voilà. Alors, Jean-Jacques Burnel, pour le film, vous avez choisi Blade Runner, le film de Ridley Scott sorti en 82. Charline, vous le savez, il s'agit d'un film inspiré d'un roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Et c'est une question que j'ai envie de vous poser à mon tour, vous qui partagez la vie d'un androïde.
Le mien rêve plutôt de footballeur électrique, mais enfin, c'est mon problème. Le film se situe à Los Angeles en 2019, après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau. Les réplicants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés hors la loi. Quatre d'entre eux parviennent néanmoins à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles.
There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants.
I need you, Dex. I need the old Blade Runner.
I'm Rachel. Deckard.
I've seen things you people wouldn't believe.
Blade Runner de Ridley Scott. Le film a été réalisé en 82 dans un Los Angeles de 2019. Nous sommes en 2019. Vous préférez le Los Angeles de Ridley Scott ou le Los Angeles de la réalité?
Ben le problème, c'est Ridley Scott, c'est un directeur, un producteur, réalisateur, on dit en français, anglais. Et dans tout le film, il y a de la pluie. Et j'en ai un peu marre de la pluie, franchement. On en a besoin, mais tous les jours, et je reviens de 15 jours en Angleterre, et en Écosse, pardon, Royaume-Uni, pour le moment, en tout cas, et il a plu tous les jours, donc j'en ai un peu marre. Mais c'est vrai, ça donne une ambiance à Los Angeles de cette époque. Et pour moi, le moment le plus émouvant, pathétique, c'est la fin quand Rutger Hauer, qui est un des réplicants, sauve la vie du mec qui est, doit le chasser et le tuer.
Ouais, ouais.
Et il le sauve et il sait qu'il a seulement quelques minutes à vivre. Sa vie est limitée.
Ouais.
Et il dit, il raconte des choses. I've seen things that you people couldn't ever imagine. Et il dit à la fin, time to die. Il meurt. Et j'ai voulu répliquer cette phrase. Et Warner m'a refusé. Donc j'ai fait un petit truc à côté, mais on en a fait un morceau.
D'accord. Okay, très bien. Ah, oui. Vous avez fait un morceau donc inspiré par Blade Runner.
Oui, voilà.
Ok. D'accord. Donc j'ai un livre, j'ai un film. Maintenant, il me faut une série. Pour la série, vous avez choisi les casquettes les plus connues de la pop culture avec Peaky Blinders, série britannique créée par Steven Knight. Charline, on vient d'apprendre que Brad Pitt voulait jouer dans Peaky Blinders. À votre avis, est-ce que ça va encore faire vendre plus de casquettes?
Alors, si je peux me permettre, pas besoin de Brad Pitt. Hein. Cillian Murphy suffit amplement. Il est Thomas Shelby, le plus dangerous des Peaky Blinders de Birmingham. Et la saison 5 de ses pros du maniement de la lame est désormais dispo sur Netflix.
Quand j'arrive à dormir, je fais un rêve. Un rêve dans lequel quelqu'un convoite ma couronne. Down in a Il y a Dieu et il y a les Peaky Blinders. Voilà, les présentations sont faites.
Jean-Jacques Burnel écoute ça d'une oreille étonnée, puisqu'il ne retrouve pas cet anglais auquel il est habitué. C'était la version française, en fait, Jean-Jacques, et sans accent.
Bon, c'est une carrière pour certains.
Oui. Pourquoi est-ce qu'elle vous plaît tellement, cette série des Peaky Blinders?
Alors, c'est seulement depuis 2-3 ans que je suis devenu fanatique de séries de télévision. Avant ça, je ne regardais pas. D'abord, c'était Game of Thrones, que j'ai trouvé fantastique. Peaky Blinders, parce que il mélange un peu de l'historique quand même, cette période qui a vraiment changé le monde. Et dans Peaky Blinders, la cinquième série, il y a un gars là qui s'appelle Oswald Mosley. Et lui, c'est un personnage fascinant dans l'histoire anglaise. Il a failli être le chef si les Allemands avaient gagné, il allait être la marionnette de Hitler. il montait le British Union of Fascists. Mm-hmm. Et ça, c'est expliqué un peu dans Peaky Blinders. Et c'est fascinant. D'un côté, tu as la musique rock, ouais. Et de l'autre côté, tu as cette mode un peu hollywoodienne quand même des années dans Birmingham dans les années 20.
Et ben voilà, on part d'une série Peaky Blinders, on pose la question à Jean-Jacques Burnel et on a droit à un cours d'histoire. Merci Jean-Jacques pour ce petit concentré d'histoire. Alors Jean-Jacques, on va terminer cette pop liste avec votre chanson culte et cette chanson c'est celle-ci. Jean-Jacques Burnel, mais au bord de l'extase, au bord de l'extase, accompagnant de grands gestes.
C'est orgasmique,
cette montée. C'est orgasmique.
C'est, pour moi, oui.
Ah oui, oui. Donc ça va mieux, là.
Une cigarette. Non.
La fille aux cheveux de lin de Debussy, interprétée ici par Divora Varsi. C'est histoire quand même de rappeler que votre culture musicale, Jean-Jacques, elle vient de là aussi, elle vient de la culture classique.
Oui, moi j'ai commencé la classique. Mon père a insisté que mon père voulait que j'apprenne la guitare espagnole classique et donc j'ai commencé avec ça et j'ai eu le droit à beaucoup de concerts à Londres à l'époque. Mm-hmm. J'ai vu Segovia juste avant sa mort, John Williams, Julian Bream, tout ça.
Et on est loin de la basse rageuse et grondante des Stranglers, là.
Oui, heureusement.
Ouais.
C'est un dépaysement, comme on dit en français. Mais je crois que ce morceau-là, ouais. Pour moi, il atteint suppression d'émotion, ouais, jusqu'à cette éjaculation musicale. Mmh. Et quel soulagement, n'est-ce pas?
Bah oui, comme toujours.
Comme toujours.
Oui, et de plus en plus rare, hélas. Alors je résume Sapiens.
Toi-même.
Sapiens, Blade Runner, Peaky Blinders et Debussy. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants.
Quand j'arrive à dormir, je fais un rêve. Un rêve dans lequel quelqu'un convoite ma couronne.
Qu'on le veuille ou non, nous sommes membres d'une grande famille particulièrement tapageuse.
I've seen things you people wouldn't believe.
Voilà, les présentations sont faites.
Voilà un concentré orgasmique de Jean-Jacques Burnel.
Très cool. Félicitations. Vous êtes. Don't give up the day job.
No, we don't. Merci Ghislain Fontanelus, puisque c'est à lui que ça s'adressait ce compliment. Alors, Jean-Jacques Burnel, passons de votre remix de pop culture à un original cultissime de la pop culture. C'est, bah, évidemment, le Golden Brown des Stranglers.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages, she's heading west from.
far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Antoine de Caunes.
Et Red Dead, Red Dead, Red Dead, roux.
Le whisky. Shining, hein, quand même. Le Red Rum, quand même.
Le whisky, karaté et interview sont les résultats qui tombent en premier quand on tape votre nom sur Google, Jean-Jacques Burnel. Alors, avant de parler de karaté et de whisky, passons à l'interview proprement dite. Voilà 45 ans que vous avez formé ce groupe des Stranglers, entré depuis dans la légende avec 17 albums studio, le prochain étant annoncé pour 2020, 15 albums live, une foule de compilations et 44 singles. Ce que je remarque, d'abord, c'est qu'il y a presque autant de live que d'albums studio, ce qui vous fait presque un point commun avec les Rolling Stones. La scène, c'est le passage obligé pour saisir l'essence des Stranglers, c'est ça ?
Oui, mais la majorité de ces lives sont pas officiels.
Ah bon.
C'est disons l'artisanat et
piratage
ouais. Mais comme George W. Bush a dit au sujet des Français, the problem with the French, they don't have a word for entrepreneur. Tu connais ça?
Non.
Il a dit, le problème avec les Français, ils n'ont pas de mot pour entrepreneur.
Bon, il y a eu quelques changements de musiciens au fil du temps, mais enfin, le cœur du groupe reste là. Et il y a toujours, surtout, des morceaux co-signés et crédités Stranglers, quel que soit l'apport individuel de chaque musicien.
C'est mieux comme ça.
Mais ça veut dire quoi? Que c'est plus un collectif qu'un groupe?
C'est juste qu'il n'y a pas de problème de fric.
Ah, c'est juste pour ça.
Ben, ça veut dire que tout le monde s'investit, parce que bon, la plupart des gens savent que c'est moi et Hugues, ou moi et Baz maintenant. Mais dès que le batteur met sa caisse claire dessus, ou Dave met une partition dessus, je pense que j'ai vu beaucoup de groupes commencer comme copains. Et se autodétruire à cause du fric, parce qu'une personne prend le dessus, il a les royalties plus que les autres, c'est lui qui écrit, donc le focus est sur lui, l'attention, il a plus d'attention, et la dynamique entre copains se perd.
Très bien, non mais c'est
ça. Ça split. Et donc, tu sais, s'il y a un succès, on le partage. S'il n'y a pas de succès,
on le partage aussi.
Voilà.
Excellent.
Est-ce que ça explique en partie votre longévité? Parce que durer collectivement, c'est compliqué, hein.
Oui, absolument. Parce qu'il y a des moments où on se haïsse, tout le monde. mais ça cimente un peu. Beaucoup,
les Stranglers, Jean-Jacques, c'est l'œuvre de votre vie, mais ce qui est amusant, comme toujours dans la vie, c'est qu'il s'en est fallu de peu pour qu'elle bascule tout à fait vers autre chose. Vous avez toujours été passionné d'arts martiaux, et en 74, vous étiez en train d'économiser pour vous rendre au Japon pour y recevoir l'enseignement d'un maître, quand vous avez croisé la route de Hugh Cornwell, et c'est presque par hasard que vous vous retrouvez à jouer de la basse avec les Stranglers.
Oui, absolument.
Votre vie a bifurqué, quoi.
Un conseil, parce que j'ai arrêté pour un autostoppeur. N'arrête jamais pour les autostoppeurs.
Ne prenez jamais personne en stop. Ça pourrait changer votre vie.
Oui, absolument. Non, c'est vrai. J'avais commencé le karaté. En fait, c'était le taekwondo. Je ne savais pas la différence à l'époque. Et je ne pense que personne connaissait la différence à l'époque. À l'université. Et c'était la mode, n'est-ce pas, Bruce Lee et tout. On ne pouvait pas à l'époque distinguer entre kung-fu et karaté. Mais bon, je suis tombé sur un cours et puis petit à petit, ça m'a plu énormément. Mmh. Et puis dès que j'ai eu l'occasion d'aller au Japon, je l'ai pris. Ouais. Et je me suis fait casser les côtes au Japon. Et vu que je suis allé à une école anglaise.
Oui, vous étiez habitué à ce qu'on me tape dessus. Oui.
Et c'est excitant.
C'est presque excitant même. Ouais.
D'être battu. Donc voilà, la punition corporelle. Je suis très pour. Je sais que je suis en minorité là, mais ça va.
Non, Antoine est pour aussi.
Non, pas du tout.
Oh non, n'importe quoi.
Oui, mais ça, ça c'est en privé. Oui.
Si vous aviez la possibilité aujourd'hui de rembobiner jusqu'au moment où, comme vous le disiez, votre vie a bifurqué, quelle voie est-ce que vous choisiriez d'emprunter ? Celle de la musique ou celle sur laquelle vous étiez parti ?
J'aurais pas pris un permis de conduire de voiture.
Vous êtes plutôt motard que conducteur. Hein.
Ouais. Écoute, j'ai beaucoup de copains qui sont petrolheads, vous savez, qui aiment les voitures. Mais pour moi, c'est un substitut pour une bite. Pour eux, ils ont leurs 5 litres Ferraris et tout ça. Et puis, je leur demande pas ce qu'ils ont entre les cuisses, mais j'imagine.
Alors, la musique ne vous a pas empêché de continuer à pratiquer le karaté, le Shidokan plus particulièrement, et vous avez atteint le grade assez inouï de 7e dan. Est-ce que le karaté est aussi important à vos yeux que la musique ? Est-ce qu'il a changé quelque chose dans votre approche de la musique ?
C'est parce que vous êtes toujours avec la musique. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui affectent le succès ou le non-succès. C'est beaucoup d'autres critères en arts martiaux. C'est ce que vous mettez dedans, vous en retirez. Tu le sais, Antoine, il y a beaucoup de bullshit dans la musique business.
Mais non.
Et dans le show business. Et je crois que ça donne une certaine confiance. On n'a pas besoin de cacher derrière des trucs, des images ou quoi que ce soit. Et ça garde les pieds assez bien sûr, relativement...
Sur terre.
Sur terre, voilà, c'est l'expression. Oui.
Vous êtes par ailleurs tombé amoureux de la culture japonaise. Qu'est-ce que vous trouvez là-bas qu'on ne trouve pas en Europe ?
C'est pornographique, je crois. C'est une certaine... De très jeune, on apprend la politesse. On est forcé à être poli. Et ça apporte une certaine sensibilité envers les autres. On peut pas être égoïste et ça se sensibilise. On est forcé au début et puis petit à petit, en vieillissant au Japon, on est très considéré envers les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait beaucoup mieux apprendre dans l'Ouest.
Je voudrais juste finir sur l'idée de votre pratique du karaté, pratique que vous appliquez aussi parfois lors de certains concerts. Est-ce que vous continuez aujourd'hui à distribuer des bourre-pifs dans les concerts ? C'est une info pour moi, parce que je compte venir vous voir le 27 novembre. Je vais plutôt pas au balcon
tout.
Ou...
Pas du tout. Reste au balcon, je peux pas... Non, c'est... Dans le temps, on nous cherchait. Ouais. Parce que peut-être on représentait quelque chose que une génération avant ça leur plaisait pas. Je ne sais pas exactement, mais pendant une année, presque tous les soirs, il y avait quelqu'un nous chercher. Et donc,
Ils vous trouvaient.
Ils nous trouvaient. Ils se trouvaient eux-mêmes. pour la plupart, en tout cas. Et c'était vraiment comme des films de Hollywood, des bar fights, c'est ça. Et j'en avais un peu marre, mais c'est vrai que quand quelqu'un monte sur scène, et c'est un docker qui est 1m90 et de largeur et de hauteur, qu'est-ce que tu as comme choix, tu sais,
de partir en cours.
Je viendrai vous protéger, vous inquiétez
oui,
pas.
Run away, run away. D'accord.
Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en France, chez nous ou chez vous?
Non, chez moi. Mm. Oui.
Les Stranglers ont toujours été un groupe profondément européen, refusant même de faire des concessions, les concessions habituelles, hein, pour conquérir le marché américain. Vous avez même enregistré un album solo en 79 qui s'appelait European Comet. Souvenez-vous.
Je suis descendant de Bonaparte. Je suis descendant d'Adolf Hitler.
Où l'on retrouvait intact, hein, votre sens de l'humour, Jean-Jacques.
Quel sens, dis-moi?
Oh, bah, vous mélangiez Bonaparte, Hitler, je sais plus qui y avait dans la chanson, vous en citiez.
Vous trouvez ça marrant?
Cromwell, ouais, je trouve ça assez amusant. Comment l'Européen convaincu que vous êtes vit-il aujourd'hui l'histoire du Brexit et le bordel intégral qui en résulte?
Ouais. on n'a pas beaucoup de temps, là, n'est-ce pas? Ok, en petit, c'est, je crois c'est une grande défaite, pour une certaine mentalité, mais c'est vrai que, et partout en Europe, il y a des gens qui sont pas très 100% pour Bruxelles, ou les, et c'est triste que les Anglais, au lieu d'essayer de changer ça à l'intérieur de l'Europe, avec des alliés, ils se mettent en dehors de ça. Donc ça, c'est déjà une chose, mais je suis convaincu, c'est une autre conspiracy theory, je suis convaincu que les arguments pour quitter l'Union européenne ont été fournis par les Russes.
Ah oui?
Absolument.
Ah, mais c'est un long débat qu'on peut ouvrir.
Oui, ouais. Absolument. Comme les gilets jaunes, je crois, toutes les social media ont été fournis par les Russes. Bien qu'ils ont énormément de revendications, c'est sûr. Mais je crois que, vous savez, ils ont des usines de hackers, de gens qui fournissent les social medias partout dans le monde. Parce que c'est vrai, c'est dans leur intérêt que l'Europe split.
Soit déstabilisée, oui.
Bien sûr. Et que les démocraties occidentales soient déstabilisées aussi. Et il n'y a rien eu d'aussi déstabilisant que depuis Cromwell, d'ailleurs, que le Brexit. Le pays est complet. Et le drapeau britannique va changer. Parce que le drapeau britannique, c'est plusieurs drapeaux superposés. Et les Écossais, l'année prochaine, ils vont redemander l'indépendance. Et ils risquent de l'avoir.
Moi, je suggère un drapeau noir, noir comme les Stranglers.
Oui, absolument.
Voilà.
ISIS, vous dites.
Bon, Jean-Jacques, ne bougez pas, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Vous savez faire plein de choses, on s'en est rendu compte. Est-ce que vous savez faire ça?
Oui.
Mais regardez comme il est beau le pop de mon burdel. Ah, mais non, mais un seul suffit. Oui, mais c'est pour lancer les pop news. Merci, Jean-Jacques.
Vous êtes nombreux à vous poser, à nous poser la question suivante. Mais qui est Maud Crayon? Eh bien, la réponse dans cette bande-annonce.
Maud Crayon est née dans les Vosges, mais vit à Paris.
Maman, papa a dormi là cette nuit?
Non, pas du tout.
Allez, dépêchez-vous!
Elle est architecte, mère de deux enfants.
Salut. Crayon!
C'est à cette heure-là que t'arrives. C'est la dernière fois. 9h, c'est pas 9h15. Et puis pour ton contrat, on verra ça le mois prochain.
Quel con. Il y a la mère qui veut te voir.
La mère de qui?
Bah, la mère de Paris.
La mère de Paris?
Maud Crayon remporte sur un malentendu.
J'adore.
On adore.
Le grand concours pour réaménager le parvis de Notre-Dame.
Et Maud Crayon, c'est Valérie Donzelli dans un film de Valérie Donzelli avec également Philippe Catherine, Pierre Deladonchon et Bully Lanners. Le film s'appelle Notre-Dame et sortira le 18 décembre.
Dans le cadre de la FIAC, les amis du Centre Pompidou donnent carte blanche au créateur Rick Owens pour une performance unique. Le designer américain, basé à Paris, a par exemple imaginé des lits monolithiques sur lesquels il mettra en scène des performeurs. À minuit, les artistes Rick Owens et Michel Lamy animeront le dance floor en transformant le 6e étage du Centre Pompidou en club éphémère. Cette soirée est organisée par l'Association des Amis du Centre Pompidou, une organisation à but non lucratif. Coup d'envoi des festivités à 21h30.
Miles est un homme qui connaît quelques galères dans la vie. Lorsqu'il entreprend un mystérieux traitement censé faire de lui une meilleure personne, et ben il se retrouve remplacé par une nouvelle version de lui, mais une version améliorée. Telle est l'idée de la série Living With Yourself, doublement interprétée version classique et version optimisée par l'acteur previously known as Ant-Man et Mike Hannigan dans Friends, Paul Rudd.
Je me suis réveillé dans un spa. Après, je suis allé bosser. Je suis rentré chez moi. Je me suis réveillé dans une tombe. Et j'ai marché pour finir par vous trouver qui que vous soyez chez moi. On est deux maintenant, mais il n'y a qu'une seule vie. Alors comment on doit faire selon vous? Il est mieux que moi, je veux dire dans chaque domaine. Dans le boulot, avec Kate.
T'es en train de faire une crise de jalousie envers toi?
Je te hais! C'est toi que tu es!
Comment pouvez-vous être sûr que vous êtes vous?
Les 8 épisodes de Living With Yourself seront dispo demain sur Netflix.
France Inter. Popopa. Antoine de Caunes.
Praise the Lord, merci Charlene.
Paul Rudd ?
Non, c'est moi quand je prends l'accent anglais.
Ah oui, c'est vrai.
Avant d'accueillir De Crécy, Nicolas, pour parler de BD, bien écoutons De Crécy, Étienne, avec Smile.
Wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight, I just wanna see you smile right now. Come on.
Smile avec Alex Goffer, c'est signé Étienne de Crécy et cet extrait de l'album Super Discount 3. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Jacques Burnel des Stranglers et vient de nous rejoindre Nicolas de Crécy. De Crécy. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Entendre Smile, le morceau de votre frère, ça vous donne l'impression d'être un peu à la maison, non ?
Exactement, oui, c'est bien de faire une promotion familiale.
C'est pas des paysans. Bon. Nicolas de Crécy, on a assez joué au jeu des sept familles. Parlons de Visa Transit, votre nouvelle BD, Visa Transit. Visa Transit, c'est un road trip autobiographique que vous faites avec votre cousin Guy, un voyage initiatique à travers l'Europe d'avant la chute du mur. Un livre qui ravira Jean-Jacques, puisqu'il est question d'Europe et de vadrouille. Même si Jean-Jacques aurait préféré, j'imagine, une bonne vieille Triomphe à une Citroën Visa. Non, pas le Visa, le Citroën. Bon, alors expliquez-nous en deux mots pourquoi ce voyage avec votre cousin a tellement compté pour vous.
C'est pas qu'il a tant compté pour moi, c'est que il me semblait intéressant de le faire figurer sous forme de dessin. Mm-hmm. Alors c'est peut-être le fait. Ce qui m'intéressait au départ, c'est de revenir dans cette Europe qui n'existe plus et d'essayer de par le dessin, d'essayer de la suggérer, d'essayer de retrouver mes souvenirs et de faire en sorte que ce soit crédible en fait, mm-hmm. et d'emmener un peu les gens qui vont lire cette bande dessinée dans cette Europe telle qu'elle était en 1986. Et c'est un exercice qui est assez difficile parce que en fait on avait pris assez peu de photos durant ce voyage, donc j'avais peu de photos et il y a que ce qui me restait dans le cerveau qui m'a servi de base en fait pour essayer de faire quelque chose de crédible.
Donc c'est la photobiographie qui est très 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 rêvée aussi, très onirique d'une certaine manière.
Il y a un côté onirique, oui, parce que effectivement, je voulais pas faire un simple récit de voyage qui risquerait d'être un petit peu plat, un peu ennuyeux. Donc j'ai mis différentes temporalités dans ce récit. Enfin, j'expliquerai ça un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai fait intervenir un poète mort.
Henri Michaud.
Henri Michaud, qui était mort depuis 2 ans à l'époque, puisqu'il est mort en 84. Donc il y a tout un dialogue comme ça avec. Enfin, il y a plein de choses différentes.
Henri Michaud trop, qui cite Benjamin Perret.
Benjamin Perret, parce qu'il me fait une espèce de farce pour voir si effectivement j'ai assez de culture pour savoir de qui est la citation, que si c'est de lui ou si c'est de Benjamin Perret. Parce que
Benjamin Perret, vous savez qu'il est enterré à Paris, au cimetière dans le 18e. Vous savez ce qui est écrit sur la tombe de Benjamin Perret, son épitaphe? Je ne mange pas de ce pain-là.
Ah, pas mal. D'accord.
Pas mal.
Le road trip est un genre en soi. Qu'est-ce que ça implique stylistiquement en matière de bande dessinée?
Je sais pas ce que ça implique parce que pour moi chaque album c'est un prototype, donc le road trip, en l'occurrence dans celui-ci, ça impliquait d'être quand même relativement réaliste par rapport au dessin, comme je l'ai dit, pour que ce soit crédible, pour qu'on y croie et qu'on puisse voyager avec moi. Donc après, moi la difficulté là, c'était d'aller dans les couleurs. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez difficile parce que ça, en fait, on passe, donc on est en été, on passe de l'Italie à la Yougoslavie, à la Bulgarie, donc c'est des paysages quand même assez ensoleillés, et il fallait que je trouve un ton par l'aquarelle qui soit ensoleillé sans être acidulé, sans être trop folklorique, donc c'était toute la difficulté.
Une patine très particulière pour le coup.
Et après essayer de pas être dans le sépia, c'est-à-dire de pas être dans quelque chose de trop nostalgique et qu'on ait l'impression en le lisant de dire qu'il y ait ce discours de c'était mieux avant, le côté un peu carte postale que je voulais éviter à tout prix.
Jean-Jacques, vous vous souvenez de l'Europe de 1986, d'avant la chute du mur?
Oui, mais Crécy 1435.
Ah bravo, oui, c'est une monstrueuse défaite française.
Comme celle de 1415 à Zincourt.
Exactement. Une défaite face aux Anglais, c'est ça que vous êtes en train de nous rappeler là, c'est
oui,
ça
oui, hein, à cause des arbalètes.
Pas les arbalètes, juste les archers gallois.
Oui,
les archers. Et l'arrogance de la flore de la chevalerie française.
Exactement, voilà.
Vous êtes content d'entendre ça, monsieur de Crécy? Bien, Visa Transit, c'est un voyage de milliers de kilomètres entre la France et la Turquie, en plein milieu des années 80, donc sans téléphone, sans wifi et sans ça.
Début de l'itinéraire vers Turquie.
Oui, absolument.
Sans GPS. Est-ce que l'histoire aurait été différente si elle avait été transposée dans un contexte contemporain? Radicalement différent.
Nécessairement, oui. Ça aurait duré le temps de prendre l'avion et d'atterrir. Bon, après, effectivement, maintenant, on peut faire la même chose. On peut, effectivement, en fait, il faut avoir la volonté de se déconnecter complètement, de trouver une vieille voiture prête pour la casse. Et,
oui, parce que celle-là devait partir à la casse, hein, c'est ça aussi.
Oui,
parmi les choses qui n'étaient pas du tout prévues dans ce voyage, vous pensiez qu'elle allait lâcher un moment et finalement.
Exactement. En fait, c'était une vieille voiture qui traînait dans la voiture de mon oncle qui traînait dans le jardin. Il manquait une roue, elle était toute rouillée. Enfin bon, elle avait 170 000 km et quelques. Et à l'époque, les voitures étaient très maigres, elles étaient fragiles, elles rouillaient tout de suite. Ouais. Donc là, elle était vraiment dans un triste état et on s'est dit, plutôt que de la mettre à la casse comme nous l'avait conseillé mon oncle, on s'est dit, on va la réparer, on va partir le plus loin possible, là où on peut, et on est arrivé effectivement jusqu'au sud de la Turquie. Wow. Et donc si on veut faire ça aujourd'hui, oui, il faut effectivement, il faut le vouloir, quoi. Et déjà, il faut se déconnecter parce que c'est vrai que on partait à l'aventure complète sans pouvoir faire le chemin avant sur Google Street comme on peut le faire aujourd'hui. On sait exactement quel sera le cheminement. Donc là, c'est plus, y a plus de spontanéité, certainement.
Jean-Jacques, encore un petit mot désagréable sur cette fameuse bataille de Crécy, peut-être?
Non, c'est une défaite complète. Mais est-ce que tu as voyagé dans l'ancienne Yougoslavie?
Tout à fait.
Tu as fait la côte ouest en descendant ou tu as traversé?
Non, on est passé, on a fait Zagreb, Belgrade, et puis après on est passé en Bulgarie, donc on est passé par les terres. Et en fait, on était, d'où le jeu de mots que vous aurez remarqué sur Visa Transit, en fait... À l'époque, on avait ce qu'on appelait des visas transit pour passer dans les pays en question, où on pouvait rester que 24 heures et pas plus. Donc,
oui, c'était avant la chute du mur. Donc
voilà, parce que c'était en...
On aura ça à partir de la semaine prochaine.
Voilà, oui, dans un autre, mais plus à l'ouest.
Vous seriez capable de vous relancer aujourd'hui dans ce genre de voyage improvisé? Enfin, partiellement improvisé?
Oui, je fais toujours, mais en fait, je le fais plutôt à vélo. Ce genre de choses. Un petit peu moins de kilomètres et à vélo pour, voilà, c'est ma conscience écologique qui parle peut-être. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, en visa, les voitures étaient effectivement un peu polluantes à l'époque, mais elles étaient plus légères, c'était des petites voitures un peu. Bon, voilà. Mais je fais ça à vélo pour, parce qu'après la cinquantaine, on a besoin un peu de faire
du sport. Ah oui, faire de l'exercice, oui. Puis le bilan carbone, là, de la visa Citroën, avec une vignette critère catégorie 42, j'ose même pas imaginer. Oui. Nicolas, contrairement à vos précédents livres, vous avez voulu faire quelque chose de différent. En, je vous cite, dessinant la réalité. C'est-à-dire que vous n'aviez jamais dessiné la réalité jusqu'à présent?
Non, c'est une réalité qui est toujours très fictionnalisée, enfin très, en fait, j'ai un imaginaire un peu débordant. Mmh. Et pour moi, le dessin, c'est quelque chose d'important justement, de ne pas décrire la réalité, de décrire ce qu'on a, la recomposition de la réalité par son imaginaire.
Bien sûr.
Moi, c'est un truc qui est vraiment, enfin, c'est la plupart des bandes dessinées que j'ai fait avant. Marcher sur ce système-là, en fait. Et là, non, je devais vraiment me coller au réel. Et pour moi, ça a été une souffrance, parce que c'est quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort, en fait.
Et ben, l'un de vos précédents ouvrages, La République du Catch, a été publié dans la revue japonaise Ultra Jump, et donc d'abord au Japon, avant la France. Comment s'est fait cette connexion?
Oh, en fait, c'est une longue histoire. Il se trouve que j'ai été pas mal traduit au Japon. Mm-hmm. Je suis un peu, les mangaka connaissent mon travail, ce qui m'a beaucoup... c'est gratifiant de savoir que des gens comme Otomo ou comme Taio Matsumoto, des gens qui sont des stars au Japon et qui connaissaient mon travail depuis longtemps. Et en fait, je suis allé au Japon souvent, moi aussi, mais pas pour faire du karaté.
Et est-ce que Miyazaki va reprendre...
Miyazaki, malheureusement, non, parce que, il s'inspirera jamais de mon travail, c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui m'inspire de son travail, parce que Miyazaki, c'est un maître extraordinaire.
Fantastique.
Oui, c'est fantastique. Ouais.
Bon, voilà encore un point de croisement de plus entre vous deux, Jean-Jacques et Nicolas. Comment dit-on Crécy en japonais?
Kureshi.
Ah, Kureshi.
Kureshi, on dit en fait.
Ah, Kureshi, d'accord.
Kureshi.
D'accord, ça s'appelle Visa Transit, c'est édité chez Gallimard et c'est le dernier ouvrage de Nicolas de Crécy, chaudement recommandé évidemment par Pop Pop Pop. On approche de la fin de l'émission, messieurs, et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle de l'émission des Stranglers, évidemment. Alors j'appelle mon ascenseur. Là. Mais qui est cet homme en blouson de cuir ligoté dans le fond de mon ascenseur? Attendez, je comprends rien, moi. Je vais vous aider, j'enlève ça. Oh, Philippe Manœuvre! Mais qu'est-ce que vous faites là?
C'est Burnel! Et à chaque fois qu'il me voit, faut qu'il me ligote! Il est fou!
Mais c'est très cruel, ça!
Ben oui, ça fait 30 ans que ça dure! Et en plus, il m'a mis la chanteuse de merde, la Rose, en boucle! Non, libérez-moi, les Kings!
Ah, je reconnais bien la sens de l'humour. Bon, allez, je vais vous détacher. Juste le temps de lancer un petit Strangler, tiens. No More Heroes, en live.
Ah non, pas les Stranglers!
Anymore. the humans all the Shakespeareans. They watch their own blood. Whatever happened to the heroes? Whatever happened to the heroes? No more heroes anymore. No more heroes anymore. No more heroes anymore. No more heroes anymore.
No More Heroes, en version live, c'était en 2013, pour finir ce pop-up-up en compagnie de Jean-Jacques Burnel et Nicolas de Crécy. Merci à vous deux d'être passés par le studio aujourd'hui.
Merci.
Nicolas. Merci Jean-Jacques. Beaucoup. Nicolas de Crécy, Visa Transit, c'est édité chez Gallimard BD. C'est absolument indispensable, on attend déjà impatiemment le tome 2. Jean-Jacques Burnel, je rappelle que vous serez en concert à l'Olympia le 27 novembre, j'y serai aussi. D'autres dates en France à retrouver sur franceinter.fr avant un nouvel album des Stranglers en 2020. On en reparle à ce moment-là. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Anne-Laure Cochet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Bérangère Krief et la chanteuse Marie-France, la première chanteuse trans en France. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous, ou plutôt, comme dit Philippe Manœuvre à la fin de ses tutos variettes sur YouTube. Hey, les kids, abonnez-vous à notre podcast! Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.